Voilà, je pense avoir dit bonjour à tout le monde. Il y a quelque temps, le jour de la Pentecôte, nous avons parlé de la venue du Saint-Esprit et nous avons dit que ce jour-là, Dieu a fait de chaque chrétien, chaque disciple de Jésus, des témoins. Il dit, vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins. Première décision. Nous en reparlerons. Et puis, à ce moment-là aussi, parce qu'ils ont été baptisés du même esprit, l'Église a été constituée. Alors, l'image qui m'était venue à l'esprit, c'est l'image d'un groupe avec des fans. Alors un jour le responsable du groupe interpelle un de ses fans en disant, à partir d'aujourd'hui, parce que tu aimes notre musique, viens, je t'intègre dans le groupe. C'est pas parce que tu vas chanter comme nous, mais la première chose que tu dois faire, c'est de témoigner de nous pour que d'autres aussi puissent être intégrés dans le groupe. Et c'est un peu ça le témoignage de celui qui a été intégré dans l'Église. Le jour de la Pentecôte, il y a eu des choses extraordinaires. Nous avons vu dans le chapitre 2 des Actes des Apôtres le récit des faits miraculeux. Il y avait bien sûr ces langues de feu qui se sont apparues et puis ces gens qui se sont mis à parler des merveilles de Dieu dans de diverses langues étrangères, et en particulier les langues étrangères des personnes qui étaient à Jérusalem. C'est fait extraordinaire. Dieu a décidé que ça se passe ainsi. Mais Dieu ne les a pas perpétués. À moins que vous ayez vu une langue de feu descendre sur l'un d'entre nous. Non. Mais ce qui se perpétue, c'est des disciples qui témoignent. L'Église qui se fortifie. L'Église dont Christ en est la tête. L'apôtre Paul dit dans Éphésiens au chapitre 1er, « En lui, en Jésus, vous aussi, on peut parler vous aussi ici à Arles, hein, il parlait des Éphésiens, « vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit. » Et vendredi dernier, on a parlé de l'onction. Vous avez été oints du Saint-Esprit, qui avait été promis. Et plus loin, dans le même chapitre, il est dit, « En lui, toujours Jésus, vous avez été édifiés pour être une habitation de Dieu, en esprit. » Alors, quand on réfléchit sur les déclarations de Jésus antérieurement à cet événement, nous percevons déjà dans au chapitre 4 de Matthieu cette déclaration de Jésus à ses disciples qu'il appelait. Il disait, « Suivez-moi et je vous ferai pêcheur d'hommes. » Tiens, c'est donc quand ils ont reçu l'Esprit Saint qu'ils sont vraiment devenus des pêcheurs d'hommes. À cela, Dieu a réalisé ce que Jésus a dit. Et puis, toujours dans le chapitre, dans un des chapitres de Matthieu, où il dit, « Je bâtirai mon Église. » Et on voit que Jésus a réalisé ce qu'il a déclaré à ses disciples ce jour de la Pentecôte. Mais je vais quand même vous continuer de parler du Saint-Esprit. Mais je voudrais puiser ce que nous allons parler aujourd'hui dans les paroles de Jésus. Jésus a parlé du Saint-Esprit. Donc je ne vais pas parler des dons du Saint-Esprit, je ne vais pas parler de certaines actions du Saint-Esprit, mais comment Jésus a présenté le Saint-Esprit. Surtout, comment Jésus a préparé son départ. Son départ, c'est son arrestation, sa crucifixion et puis son ascension. Comment Jésus a préparé ses disciples pour ce grand départ et comment il va les rassurer en disant « Vous ne serez pas orphelins ». En un mot, comment Jésus a fait la passation de pouvoir de lui en tant que chair sur la terre au Saint-Esprit qui va le remplacer sur la terre. Et tout cela, nous le voyons dans le chapitre 14, 15 et 16 de Jean. Et ces chapitres 14, 15 et 16 de Jean s'intègrent dans un ensemble de passages qui démarrent du chapitre 13 jusqu'au chapitre 17 de l'évangile de Jean. Il prépare ses disciples. Alors, je vous demande d'ouvrir votre Bible déjà au chapitre 13 de l'évangile de Jean. Et au verset 1er. Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. C'est le cadre où Jésus parle. Il va parler à ses disciples de tant de choses, et puis du Saint-Esprit, dans cet état d'esprit d'amour pour eux. Ils vont sentir cet amour pour ses disciples qui étaient là. Et au chapitre 14, à partir du verset 15, nous lisons « Si vous m'aimez, gardez mes commandements, et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur. » Soulignez bien le « autre consolateur. » « Afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez car je vis et vous vivrez aussi. » En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père et que vous êtes en moi, et je suis en vous. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime, et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. » Jude, non pas l'Iscariote, lui dit, « Seigneur, d'où vient que tu te feras connaître à nous et non au monde ?» Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles, et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous, mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Vous avez entendu et je vous ai dit, je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimiez, vous vous réjouirez de ce que je vais au Père, car le Père est plus grand que moi. » Dans le chapitre 15, à partir du verset 26, il est dit « Quand sera venu le Consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi, et vous aussi vous rendrez témoignage, parce que vous êtes avec moi dès le commencement. » Et au chapitre 16, nous lisons versets 8 à 15. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas le porter maintenant. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera, parce qu'il prendra ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi, c'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Le Consolateur, un nom bien choisi. Pour ceux qui connaissent le grec, c'est en grec parakletos, quelqu'un qui se tient à côté de vous, qui vous soutient, qui est là pour vous secourir. Dans d'autres passages, il est traduit par le mot avocat. Il est le soutien permanent à côté du chrétien. Moi, j'aime bien ce terme consolateur. Dans d'autres passages, dans d'autres versions, il préfère plutôt la traduction être une aide. Et c'est dans ce sens qu'il se tient à côté de chaque chrétien. Mais vous remarquerez, si vous allez lire dans 1 Jean 2 et le verset 1er, là il est dit que Jésus est notre avocat auprès du Père. Le même mot est utilisé. Mais nous constatons que si le Consolateur, il est sur la terre avec le chrétien après le départ de Jésus, Jésus, lui, se tient auprès du Père en tant qu'avocat. L'Esprit Saint, le Consolateur, soutient le chrétien. Jésus est celui qui intercède auprès du Père pour le chrétien. C'est dans ce sens que Jésus présente le Saint-Esprit. Il dit aussi, dans le verset 16 du chapitre 14, tout à l'heure, « Il demeure éternellement avec vous, vous chrétiens. » Mais je ne le sens pas. Il y a des moments où je suis plein d'émotions. J'ai l'impression qu'il m'enveloppe. Et puis il y a des jours, oh, que c'est sec. Je ne sens rien. Je n'arrive même pas à prier. Mais Jésus dit, « Il demeure éternellement avec vous. » Et ceci me fait penser, bien sûr, à cette parole de Jésus quand il dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples et je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » J'ai l'impression qu'il y a toujours ce parallèle entre l'Esprit-Saint et Jésus. Il y a même des confusions, et si vous relisez ces textes que nous avons lus, il y a des confusions comme l'Esprit est là et Jésus vient et s'installe dans le chrétien. Il y a la confusion entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. L'Esprit maintient une relation permanente entre Dieu, le Père, entre le chrétien et Dieu. Il maintient cette relation que par nous-mêmes, nous ne pouvons pas le faire. C'est ainsi qu'il assure sa permanence près des disciples de Jésus. Mais bien sûr, le chrétien peut l'attrister, peut même l'étouffer, se fermer les oreilles, ne pas vouloir entendre, faire des mauvais choix comme nous avons entendu tout à l'heure. Mais Jésus dit, il demeure éternellement avec vous. Il atteste que vous êtes enfants de Dieu. C'est ainsi que Jésus présente le Saint-Esprit. Après avoir dit qu'il est le Consolateur, il est dit qu'il est aussi l'Esprit de vérité. Dans l'Évangile de Jean, il est question de vérité. Jésus lui-même se présente comme la vérité. Il déclare que la parole de Dieu est la vérité. L'Esprit Saint que le Père envoie à la demande du Fils ne peut pas être autrement que la vérité. Parce qu'il va prendre ce qui est à moi, dit Jésus, qui est la vérité, et vous l'annoncera. Il est la vérité. Et il est contrairement au diable qui est le père du mensonge. Vous verrez ça dans le chapitre 8 de Jean. Il est dit aussi qu'il est le prince de ce monde incrédule. Prince de ce monde incrédule. C'est pour ça qu'aussitôt après, Jésus déclare « Le monde ne peut pas recevoir le Consolateur. Le monde ne peut pas avoir l'Esprit Saint. Le monde ne peut pas avoir l'Esprit de vérité. » Parce que c'est deux mondes différents entre le monde de la vérité et le monde du mensonge. Alors vous allez me dire, mais le chrétien, il arrive qu'il mente. Eh oui! Mais là, on parle de l'esprit de vérité, celui qui se tient à côté du chrétien. Et qui peut être attristé, qui peut être étouffé. C'est ainsi que Jésus présente l'Esprit Saint. Il est l'esprit de vérité. Jésus dit aussi, dans les textes que nous avons lus, qu'il est l'Esprit Saint. Chapitre 14, verset 26. Comment peut-il être autrement quand il dépend du Dieu trois fois saint? C'est ainsi que Jésus présente l'Esprit de Dieu qu'il envoie vers le chrétien. Nous constatons que Jésus présente l'Esprit Saint comme une personne en action. Il n'est pas inactif. Ce n'est pas une force quelque part qui nous entoure, comme l'électricité. Non, ce n'est pas une énergie. C'est une personne qui agit. Jésus dit qu'il a un rôle formidable auprès du chrétien. Il dit, il vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Bien sûr, l'Esprit Saint est là pour aiguiser notre conscience. L'Esprit Saint est là pour nous faire grandir. Mais celui en qui l'Esprit Saint agit librement provoque en celui qui se laisse diriger par l'Esprit Saint d'autres actions. Et il dit, comme l'Esprit Saint rend témoignage de moi, vous aussi, vous rendrez témoignage de moi. On revient à Pentecôte. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. L'Esprit Saint n'est pas inactif dans le chrétien. Mais l'Esprit Saint n'est pas une force comme cela. Il est une personne qui agit. Ce n'est pas un dictateur qui impose. Il veut avoir libre accès dans nos choix. Par contre, il interpelle. Il est lumière, comme le Père est lumière, comme Jésus est lumière. Donc, il agit auprès du chrétien. Mais attention, dans le cadre du témoignage du chrétien et puis dans d'autres domaines, il agit aussi auprès du monde. Comment il agit auprès du monde? Et c'est Jésus qui nous le parle. Il dit, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Je ne rentre pas dans le détail, mais le péché, c'est ce qui sépare l'homme de Dieu. La justice, parce qu'il sera face à la justice de Dieu et il passera au jugement de Dieu. Et il est dit même que le monde, le diable, le prince de ce monde est déjà jugé. L'Esprit Saint n'est pas sans action dans la vie du chrétien et dans son environnement envers le monde. C'est ainsi que Jésus présente celui qui va prendre sa place alors qu'il va monter vers son Père. Tout à l'heure, j'ai dit que quand on lit ces textes, on voit certaines confusions entre celui qui est l'Esprit de Dieu, le Père lui-même et le Fils qui est Jésus. Il y a interaction entre le Père, Fils et du Saint-Esprit. Il dit quelque part, nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui, chez le chrétien. Comme le Consolateur au verset 16. C'est Dieu qui se manifeste d'une manière trinitaire. Ce Dieu qui se manifeste en trois personnes. L'Église est le chrétien où habite l'Esprit de Dieu est devenu une habitation de Dieu lui-même. Nous l'avons lu tout à l'heure dans Éphésiens au chapitre 1. Dans ce chapitre, dans ces chapitres 14, 15 et 16, en peu de mots, Jésus présente l'Esprit Saint, le Consolateur, l'Esprit de vérité. Cet Esprit que le monde ne peut pas recevoir. L'Esprit Saint qui va demeurer éternellement avec le chrétien. Celui qui va le remplacer. C'est ainsi Jésus passe, fait la passation du pouvoir. Discrètement, en privé, avec un entretien, j'allais dire en tête à tête, avec ses disciples qu'il aime profondément. Jésus, du chapitre 13 au chapitre 17 de Jean, prépare ses disciples à son départ. Dans cette manifestation, dans cette action de préparation, il manifeste son profond amour envers les siens. Nous avons lu tout à l'heure le verset 1er du chapitre 13. Mais vous connaissez l'intercession de Jésus auprès du Père au chapitre 17? Prenons le chapitre 17. Verset 9. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi, et tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi. Verset 13. Et maintenant je vais à toi. Je dis ces choses dans le monde afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde comme moi, je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Verset 20, ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Ainsi de suite. Jésus intercède en faveur de ses disciples dans ce chapitre 17. Et nous alors? Déjà, ce verset 20 du chapitre 17 que j'aime bien, ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais pour encore ceux qui croiront en mon nom, qui croiront en moi par leur parole. Et imaginez que cette parole a été transmise et nous est parvenue. Nous faisons partie de ces gens dont parle Jésus. Nous, chrétiens du 21e siècle, qui vivons au 21e siècle, sommes-nous toujours conscients de la présence de l'Esprit de Dieu en nous? Rappelons-nous que par le Saint-Esprit, nous sommes individuellement témoins de Jésus-Christ. C'est Jésus qui le dit. Et non seulement cela, mais nous formons un seul corps qui est l'Église. Ça c'est dit dans 1 Corinthiens 12, 13. Et cette Église, ce corps, il a une tête, Jésus-Christ. 1 Colossiens chapitre 1, verset 18. Revenons à notre Éphésiens d'introduction. Sommes-nous toujours conscients de la présence du Saint-Esprit? Paul dit, en lui, vous aussi, chrétiens d'Arles, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Aujourd'hui, par ces paroles qui ont retenti il y a 2000 ans, Jésus nous présente aussi le Consolateur, l'Esprit de vérité, l'Esprit Saint, en qui nous sommes intimement liés et nous devons en être dépendants. Aujourd'hui, méditons et croyons les paroles de Jésus. Repassons dans notre cœur ces paroles qui nous présentent, j'allais dire, notre compagnon de marche. Que Dieu soit loué pour ce privilège d'être accompagné d'une manière si intime par son esprit. Ce n'est pas une force abstraite, c'est une personne, Dieu habitant dans chaque chrétien. Prions. Sois béni Seigneur pour ta parole. Merci parce que nous sommes tellement oublieux de ces privilèges dont tu parles dans l'évangile. Aujourd'hui, que par ton Esprit Saint, tu nous ravives notre conscience, notre intelligence, pour que nous soyons conscients et en conséquence vivre selon ta volonté. Amen.